Ça va, hein? Tu trouves? C'est bon? D'accord. Nous ouvrons le Nouveau Testament et je vous lis quelques versets de la première épître de Pierre au chapitre 2, les versets 7 à 10. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Nous appelons ton assistance, Seigneur, par le Saint-Esprit, pour que ces paroles puissent nous redevenir nourriture ce matin, par le nom de Jésus. Éclaire-nous. Amen. Une fois n'est pas coutume, je vais vous donner une anecdote personnelle. J'étais invité à la commémoration de la révocation de l'édit de Nantes à l'UNESCO à Paris. La révocation de l'édit de Nantes, c'est 1685. Je suis arrivé un peu en avance et j'attends vers ce que je pensais être une entrée, une des entrées de l'énorme bâtiment. D'autant qu'il y avait quelques personnes qui attendaient là. Le temps passe et rien ne semble bouger. Alors je m'approche d'une des personnes présentes pour me renseigner. Et en riant, elle me dit « Mais monsieur, vous êtes ici avec le service de sécurité. Alors si vous voulez, on vous embauche, mais l'entrée, c'est là-bas, de l'autre côté. » Alors, dans l'urgence, j'y cours et je montre mon carton d'invitation à une hôtesse pour qu'elle me montre dans la grande salle déjà bondée où m'installer. Mais voilà qu'elle me dit « Mais monsieur, sur votre carton d'invitation, il y a un T. Ce qui veut dire que vous devez vous asseoir sur la tribune avec les présidents d'église. » Oula, je n'attendais pas tant d'honneur. Voilà comment il ne suffit pas de répondre à une invitation, encore faut-il trouver la bonne porte et être à la bonne place. Si cette anecdote a alimenté un peu ma réflexion, j'aimerais en dépasser l'aspect personnel, bien sûr, et vous parler d'une autre invitation, celle que Dieu nous adresse par l'Évangile et de la place que Dieu assigne à l'Église, dans le monde, dans l'histoire, dans le plan de Dieu. Et c'est une place d'honneur. Encore faut-il l'entendre de juste manière. L'honneur est pour vous qui croyez. Alors, nous avons peut-être un peu de mal avec cette notion. Comment moi, honoré par Dieu, on est un peu intimidé par ça. Et j'en vois un symptôme d'autant plus clair que dans plusieurs versions de ce texte, on a l'air de tourner autour du pot. Il n'y a que les versions plus récentes qui disent « l'honneur est pour vous ». Mais je viens de voir la Darby tout à l'heure, c'est autre chose. C'est quoi déjà sur la Darby ? Et sur d'autres versions, c'est l'honneur se montre, l'honneur sous-entendu de Dieu, se montre pour vous. Mais non, c'est bien l'honneur est pour vous qui croyez. En quoi la situation de croyant est-elle un honneur ? Alors, entendons-nous bien sur la notion d'honneur. Vous savez, la présence de l'église, le bâtiment, au milieu du village, était le symbole d'un certain honneur. En tout cas, marquait le pouvoir temporel de l'église. Depuis Constantin, l'église chrétienne avait conquis des places d'honneur, mais au prix d'une trahison de l'évangile. Car s'il est bien question d'honneur de ceux qui croient, c'est d'un honneur du serviteur qu'il est question dans les Écritures, et non de l'honneur des seigneurs. L'Église de Dieu a l'honneur de servir son Dieu dans le monde. Bon, maintenant les églises sont plutôt en marge, associées aux zones commerciales et ou industrielles, par souci d'accessibilité et de parkage des véhicules à moteur. Là aussi, c'est un symbole. Le symbole peut être d'une perte d'influence. Alors, est-ce un bon signe ou un mauvais signe, à votre avis? Moi, je trouve que ce serait plutôt bon signe. Parce que plus les églises perdront les honneurs à la manière du monde, plus elles seront libérées pour servir vraiment l'Évangile. L'autre jour, on est allé en vacances. Tiens, encore une anecdote personnelle. Ça y est, le virus me prend. Il y avait un monsieur sur le bateau. On est allé à l'île de Groix. Et ce monsieur devait être un ecclésiastique, je pense. Il lisait un livre dont j'ai pu lire la couverture à l'envers. L'Évangile sauvera l'Église. C'est intéressant comme réflexion. Car l'honneur des croyants consiste dans l'Évangile lui-même et non dans le poids sociologique, la surface sociologique d'une Église. Avons-nous suffisamment conscience de la place que le Seigneur nous a assignée dans le monde et de l'indispensable service que nous y accomplissons? C'est une question. Avons-nous compris l'honneur qui nous est fait? J'ai eu à l'esprit ce psaume 113, versets 7 à 8, qui dit « De la poussière, il relève le faible, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les notables de son peuple. » Le Seigneur nous a anoblis. On a plutôt tendance, nous, à nous dévaloriser, à nous traîner misérablement dans la conviction sincère de nos insuffisances, de notre indignité, etc. C'est bien de ne pas prendre la grosse tête. C'est bien de ne pas se surestimer. Mais c'est pas bien non plus de se sous-estimer. Et j'aimerais ce matin qu'on réfléchisse un petit peu à cet honneur du croyant. Nous sommes si prompts à nous considérer comme un résidu minoritaire, alors que l'Évangile nous dit tout autre chose. Dans sa lettre, Pierre parle d'honneur pour vous qui croyez. En effet, Dieu a choisi de nous confier le privilège d'un triple ministère. Et Jean-Marc a parlé de ce privilège tout à l'heure. Hein ? Un triple service qui, d'ailleurs, se situe dans la prolongation de celui de Jésus lui-même. Jésus est présenté dans les évangiles selon ce triple ministère. Il est roi, il est sacrificateur, il est prophète. Eh bien, à sa suite, nous avons l'honneur d'entrer dans ce service royal. Nous sommes tous ministres du grand roi. Vous savez que ministre, ça vient de minus et signifie le serviteur, le garçon de course, celui qui fait le ménage, celui qui bosse dans la maison. C'est ça le ministre. Nous sommes tous ministres de Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes au service du règne de Dieu. Si l'Église n'est pas le royaume, elle en est l'annonciatrice. Elle en est le bourgeonnement par ses paroles et par ses gestes. Voilà comment nous pouvons passer du pauvre résidu à l'embryon riche de toutes les promesses de Dieu, de tous les possibles de Dieu. Il n'y a peut-être pas une grande différence quantitative entre un résidu et un embryon, mais il y a une énorme différence qualitative. Le résidu, il finira par disparaître. L'embryon finira par venir au monde. Et c'est l'honneur que Dieu nous fait. Alléluia. Le deuxième ministère, c'est un ministère sacerdotal. Jean-Marc nous a lu tout à l'heure Jérémie 31, qui, comme je le pense aussi, ne signifie pas que plus personne n'aura rien à dire à personne. Sinon, qu'est-ce que je fais là ce matin ? Mais qui signifie simplement qu'il n'y aura plus de médiation pour connaître Dieu, pour le connaître au sens biblique, c'est-à-dire pour entrer en relation profonde avec lui. Il n'y aura plus de médiation. Et c'est vrai, mais elle n'a pas totalement disparu. Elle a changé de nature. Elle s'est déplacée. Et la médiation, puisqu'il est question de sacerdoce pour l'Église, elle se situe à la faveur du monde. Nous sommes pour Dieu et pour le monde celui qui fait l'interface. L'Église est là pour faire monter vers Dieu sa louange, mais aussi sa prière d'intercession, et comme le dit Paul, pour les grands, pour ceux qui sont élevés, pour tous les hommes. Avons-nous bien conscience que ce ministère sacerdotal vous appartient et qu'il a une énorme efficacité dans l'histoire du monde, qu'il est plus puissant qu'un bulletin de vote, qu'il influence le cours des événements, que nous pouvons faire monter vers Dieu une prière qui lui donne le droit d'intervenir dans le royaume des ténèbres, dans la vie des nations, dans le cœur de ceux qui nous gouvernent. Avons-nous conscience de cet honneur ? Réjouissez-vous, ne faites pas cette tête-là. C'est merveilleux. Et il ne faut pas s'en priver, voyez-vous. C'est pour ça que Paul nous exhorte avec une telle insistance de faire monter à Dieu à tout moment des prières, des supplications, d'intercéder. Il ne suffit pas de subir les événements et de regarder avec émotion ces drames que nous traversons aujourd'hui, réfugiés et tant d'autres choses, des guerres, des combats, des atrocités. Nous avons souvent un sentiment d'impuissance, mais détrompons-nous. Nous ne sommes pas totalement démunis. Bien sûr, il y a des œuvres concrètes à accomplir. Et beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas attendu l'Église et l'Évangile pour agir. Il y en a qui pourraient nous en remontrer. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas faire. C'est intercéder devant Dieu, présenter à Dieu l'offrande de nos prières, prier pour ceux qui nous gouvernent, prier pour les peuples opprimés. Vous me direz, mais on ne voit pas vraiment le résultat. Qu'en savons-nous ? Ministère sacerdotal. Mais c'est aussi un ministère prophétique. Je dirais que ce ministère, il va dans le sens contraire. C'est-à-dire que le prophète est celui qui s'adresse au monde de la part de Dieu. Il présente la parole au monde. Il dit au monde la parole dont il a besoin. Par nous, Dieu adresse encore sa parole. l'Évangile est tout entier prophétie, parole de Dieu incarnée. C'est ce que la première lettre de Pierre explique au chapitre 1er, verset 24. Pierre cite un prophète, Ésaïe, chapitre 24. Il reprend les versets 6 à 8. « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et Pierre ajoute, « Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. » Nous sommes, de par l'annonce de l'Évangile, des prophètes de Dieu dans la société. Et le monde a besoin de cette parole. Voyez-vous, la vie de ce monde serait totalement désespérée s'il n'y avait pas ce triple ministère de l'Église dans la suite de celui de Jésus. Le monde a la chance de nous avoir. L'Église est un potentiel pour le monde, un potentiel d'espérance, de guérison, d'apaisement, d'éclaircissement. C'est un privilège quand même d'avoir un tel ministère à exercer. Mais qui dit privilège, dit aussi responsabilité. Triple là aussi. Responsabilité envers le monde, nous lui devons l'Évangile. Le monde est notre créancier, de ce point de vue-là. Et nous sommes invités à chercher toute occasion, favorable ou non. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, dans les versets 22 à 23, Paul écrit « Je me suis fait tout à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. Et en tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Juste avant, il avait dit « Je me suis fait juif avec les juifs, grec avec les grecs, etc. Sous la loi, avec ceux qui sont sous la loi, quoique je ne suis plus sous la loi de Moïse, étant sous la loi du Christ. Et puis, je me suis montré comme sans loi, quoique je ne sois point sous la loi, je ne sois point sans la loi du Christ. » Et on pourrait taxer Paul d'opportuniste ou d'hypocrite, parce qu'il a des changements d'attitude suivant ses interlocuteurs. Et il ne s'agit pas d'hypocrisie, il s'agit de pragmatisme, parce que Paul a un urgent, pressante envie d'amener au moins quelques-uns à se tourner vers Jésus-Christ. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Donc c'est une responsabilité envers le monde. Nous avons aussi une responsabilité envers l'histoire. L'histoire avec un grand H. Elle serait vaine s'il n'y avait la lueur d'une espérance repérable dans le discours et dans le comportement des chrétiens. Quand nous lisons les journaux, nous avons parfois l'impression que on va dans le mur, c'est foutu, et c'est ce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui. On parle de suicide planétaire, on parle de faim. Bref, il y a beaucoup de gens très très pessimistes. Il ne s'agit pas d'être optimiste, il s'agit d'être responsable. Il n'y a pas de fatalité dans ce qui arrive ces jours-ci, ces temps-ci. Il nous est difficile de trouver par quel bout prendre l'histoire actuelle. Mais il y a des actions qui sont simples à envisager, comme accueillir ceux que l'on pourchasse, bien sûr, comme partager un peu de notre abondance. Ça peut même aller dans des petits détails, apprendre à sourire aux gens, à leur parler, à aller au-devant d'eux, à essayer d'apporter une parole de consolation, d'encouragement. Nous avons une influence, et parce que nous avons cette responsabilité envers l'histoire. La troisième responsabilité, elle est envers la création tout entière, envers les abeilles. Pas de fatalité, non plus. Nous savons que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu, afin d'avoir part à leur liberté. Nous faisons partie de la création, et nos façons de gérer la création et de consommer doivent obéir à cette vision. Il y en a aujourd'hui une vraie prise de conscience chez nombre de nos contemporains. Vous lisez les journaux, je suppose, ou peut-être êtes-vous abonné à certaines revues, mais je suis frappé de voir combien semble monter dans beaucoup de têtes, beaucoup d'esprits, ce sens de la responsabilité envers la création tout entière. Je sais bien que dans ce domaine, il y a à boire et à manger, si j'ose dire. Et certains évoquent des spiritualités orientales pour justifier ces réflexions. Mais moi, je n'ai pas besoin d'une spiritualité orientale pour me considérer comme faisant partie de la création et comme étant responsable de sa survie ou de sa renaissance. Et je pense qu'en tant que chrétiens, nous devons prendre au sérieux notre responsabilité en tant que membres de la création. Revenons à ce qui nous rassemble ici et maintenant. Dans beaucoup d'églises, quand on introduit le culte, j'entends souvent l'expression « ce matin ». Ce matin. Parce que, ben oui, c'est un moment particulier. Il ne faut ni le sous-estimer, ni le survaloriser. La langue allemande a raison d'appeler le culte « Gottesdienst », c'est-à-dire « service de Dieu ». Rassemblés pour le culte, nous nous reconnaissons serviteurs de Dieu d'une façon toute particulière. Le culte est par excellence le moment et le lieu pour dire cette place d'honneur qui nous est faite. Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un bon culte ? Ah ! Je ne sais plus qui c'est tout à l'heure qui parlait de... Ah oui, c'est Jean-Marc. D'un bon ou mauvais pasteur, ou comme il pouvait y avoir de bons et mauvais sacrificateurs. D'ailleurs, le parallèle à faire entre sacrificateur et pasteur est glissant. C'est dangereux. C'est faux. Tout pour tout dire. Car nous sommes tous prêtres, je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes tous prêtres. Alors, qu'est-ce qu'un bon culte ? Cela ne dépend ni du nombre des participants, ni de leur rang social, ni de la beauté de son lieu, quoiqu'on est pas mal ici quand même, ni de la technique qui s'y déploie, quoique parfois elle soit défaillante. Le culte que nous célébrons n'est pas plus ou moins bon suivant le prédicateur qui s'y exprime, sa renommée ou pas. Le culte est bon tout simplement parce qu'il a lieu. Il est bon d'avoir lieu. Voilà. Est-ce que vous croyez ça ? Que s'il n'avait pas lieu, ce ne serait pas bon. Pourquoi ce culte ici ce matin est-il bon ? Outre d'avoir lieu. Parce qu'il ne lui manque rien. Vous en êtes sûr ? Oui, il ne lui manque rien. Et pourquoi ne lui manque-t-il rien ? Parce que le Seigneur le convoque. Et parce qu'il considère ses enfants comme les prémices de sa nouvelle création. Il semble que l'apôtre Paul ait bien inculqué aux églises une haute vision de leur appel. 1 Corinthiens 6, verset 3, Paul dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Vous avez remarqué ce verset ? C'est quand même pas rien ça, dites donc. Et puis Jacques n'est pas en reste, qui donne aux chrétiens un rang élevé. Chapitre 1er, verset 18, et je vous le lis en français courant. « Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ses créatures. » Certaines versions parlent de prémices. C'est comme s'il disait « Les chrétiens ne sont pas en queue de peloton, mais en tête de l'histoire. L'Église précède le monde dans le plan de Dieu. L'Église précède la rédemption de toute chose. Elle marche en tête et pas en queue ou à côté. C'est l'honneur qui nous est fait. Réjouissez-vous. Soyons reconnaissants. Ce n'est pas dû à nos vertus personnelles. Ce n'est pas dû à notre fidélité, notre loyauté ou au degré de perfection atteint, comme quelqu'un le rappelait tout à l'heure. Non, c'est ainsi. Il a fait de nous les prémices de ses créatures, parce que nous appartenons au ressuscité, au premier-né d'entre les morts. Nous sommes tous les frères et les sœurs du premier-né. Nous sommes tous les enfants plus jeunes, les enfants cadets, les petits derniers. Mais quand même, nous appartenons à la nouvelle création, celle qui va impacter toute chose à l'heure que Dieu choisit. Je voudrais vous lire quelques lignes d'un livre. C'est un livre de Daniel Marguerat, pour ceux qui le connaissent. C'est dans les Essais bibliques chez Labor et Fides. Il a écrit ça en 1990, donc c'est pas trop vieux. Hein. Je vais dire quelques lignes. L'apocalypticien, là il parle de l'apôtre Jean, l'apocalypticien a dressé une fresque de l'histoire du monde, hier, aujourd'hui, demain, une fresque aux dimensions de la terre et du ciel. Or, il existe pour lui un lieu sur la terre où retentit la louange céleste, un lieu où se dit la vérité cachée du monde, et ce lieu est le culte. Peu importe que ce lieu soit contesté, déserté ou méprisé par le monde, il est l'endroit où la prière croyante prend une saveur d'éternité. Le culte est l'endroit où retentit une parole étrange, venu d'ailleurs, qui désacralise tout pouvoir, fût-il religieux, pour révéler que le vrai pouvoir est caché, qu'il est Dieu, qu'il est le Dieu. Le vrai pouvoir est Dieu. Car l'Apocalypse vit de cette conviction que le visible n'est pas à confondre avec le vrai. Si le monde est le lieu du déploiement visible des puissances du mal, le vrai sera manifesté au jugement final. Mais le culte, aujourd'hui déjà, est une anticipation du vrai. Force inviolable de l'espérance. Fin de citation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent revenir en écho de ces quelques lignes. Notamment, je crois que c'est dans les Hébreux, les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Alors, il nous faut apprendre à distinguer entre ce que nous appelons le réel et le vrai. Nous sommes dans une réalité qui n'est pas encore la vérité. Le jour où vérité et réalité se superposeront et se confondront, ce sera le jour du royaume, advenu en totalité, sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs, mes bien-aimés, nous sommes à la bonne place. Nous avons répondu à une invitation et nous découvrons étonnés que Dieu nous honore comme nous ne le méritons pas. Il y a un tzigane un jour qui revenait d'une convention et qui disait « Oh, le Seigneur nous a bénis, c'était honteux. » Il y a quelque chose de juste dans ce qu'il disait. C'est le sentiment profond de l'indignité de l'être humain, malgré laquelle le Seigneur nous bénit quand même encore et encore. Bien sûr, je ne voudrais pas que focaliser sur le culte seulement. Tout ne se passe pas là, ici, ce matin. Mais c'est un temps important. Un jour, quelqu'un me dit « Oh, le culte, ça ne sert à rien. » J'ai répondu « C'est justement pour ça qu'il faut le célébrer. » Parce que c'est un moment de grâce. Un moment gratuit. C'est peut-être un des derniers moments gratuits qui nous reste dans notre vie effrénée de consommation payante. Vous vous rendez compte? J'ai voulu faire gonfler les pneus de ma voiture, il faut payer maintenant. Ils nous vendent de l'air. C'est eux qui sont gonflés quand même, hein? Nous sommes ici parce que nous y étions déjà. C'est curieux ce que je vous dis là. Nous sommes ici parce que nous y étions déjà en permanence, dès le premier instant de la foi. Jésus est la porte par laquelle les rachetés entrent dans la communion du Père et du Fils. Paul débute sa lettre aux Corinthiens en affirmant « Dieu nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ ». C'est fort ça. Parce que c'est quelque chose qui ne tarit jamais, qui ne s'arrête jamais. On a l'habitude de dire de New York, la grosse pomme, que c'est une ville où la vie ne s'arrête jamais. C'est une illusion. Mais la vie chrétienne ne s'arrête jamais. La vie spirituelle ne s'arrête jamais. Nous sommes ici parce que nous y étions en permanence et nous sommes entrés dans la communion du Père et du Fils pour ne plus jamais en sortir. Il y a des slogans utilisés parfois dans nos liturgies, parce qu'on dit qu'on n'a pas de liturgie, nous, mais on en fait une. On a laissé tomber la liturgie réformée, catholique, luthérienne, on dit tout ça c'est liturgique, c'est pas bien. Mais on en a fabriqué une autre. Et il y a des slogans dans cette liturgie. Alors nous entrons dans la présence de Dieu, nous entrons dans la louange, nous entrons dans la prière. Ah bon, vous en étiez sortis? Réfléchissons un peu à ça. Le culte est la partie visible d'une célébration de tous les instants de notre existence croyante. Lorsque nous venons ici, nous n'entrons pas dans la présence de Dieu, car nous y étions déjà. Et quand nous sortons d'ici, nous ne passons pas à autre chose. Nous célébrons un culte permanent. Amen. On prie. Nous te remercions, Seigneur, pour la place que tu nous as donnée et dans laquelle nous sommes invités à nous réjouir, à te célébrer. Et comme le dit Paul, nous ne pouvons nous glorifier que d'une chose, de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu nous honores de ta présence. Tu nous honores de ta propre venue, de ton évangile, de ta mort et de ta résurrection. Nous te louons parce que nous étions aussi nous couchés dans la poussière de la mort. Nous étions assis sur un tas de fumier, comme Job. Puis tu nous en as relevés pour nous faire asseoir avec les notables de ton peuple. Nous nous réjouissons pour cette communion et cette louange qui se marie à celle des anges, de ceux qui déjà dans la gloire te contemplent. Nous nous réjouissons de toutes ces choses et nous voulons, Seigneur, te dire oui notre fierté de t'appartenir. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire pour l'éternité. Amen.